Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Cécile, bonjour.
Bonjour.
Et d'Axel.
Bonjour.
Bonjour toutes les deux. Et donc, vous êtes salariés au sein de l'association R, et qui a pour vitrine, justement, le magasin Trésor qui se trouve... derrière les jardins du Perrier, c'est ça, hein ?
Exactement.
Alors, vous êtes ici pour nous annoncer des nouveautés et puis également nous parler de ce qu'est maintenant Trésor.
Oui, tout à fait. En fait, ça fait longtemps qu'on a envie de communiquer. On se dit que, de raconter un peu ce qu'on fait parce que peu de gens connaissent réellement le cœur de l'activité. Parce qu'il y a un historique aussi sur le territoire et qu'on se fait une image de la boutique et qu'on sait assez peu ce qui se passe derrière. Effectivement, on a quelques actualités, mais la plus grosse actualité, c'est qu'on existe et qu'on a envie de parler de nous.
Cécile, vous êtes en accompagnement des personnes qui sont en insertion.
Oui, en fait, R est une structure d'insertion par l'activité économique qui existe depuis plus de 30 ans et sur le territoire du Diwa. Notre activité, c'est le chantier d'insertion Trésor, que tout le monde connaît pour être une recyclerie, mais dont les gens savent un peu moins que c'est une activité d'insertion qui salarie. Alors pour 2018, on a salarié 24 personnes en 2018, de personnes qui étaient soit déjà salariées en 2017 et qui ont poursuivi leur parcours en 2018, soit qui sont arrivées en 2018 au sein de l'activité Trésor. Donc moi, mon rôle dans ce dispositif, c'est d'accompagner les personnes dans leur parcours socio-professionnel. Parce qu'on ne recrute que des personnes qui ont été au préalable identifiées par ce que nous, on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, comme ayant des difficultés pour intégrer le marché du travail. On les recrute et on leur propose un emploi qui nous permet... de les accompagner vers le marché du travail, en passant par de la formation, en réglant tout un tas de freins d'ordre sociaux, etc. Donc ça, c'est moi qui m'occupe de cet accompagnement-là.
Axel, alors vous vous occupez donc de la ressourcerie. En quoi ça consiste ?
Mon travail, il est un peu double. D'une part, je dois encadrer les salariés au quotidien sur l'activité. Parce que comme dit Cécile, du coup, ils ont été 24 en 2018, ce qui veut dire au quotidien environ une dizaine de personnes et une équipe fixée à peu près 15 personnes, puisqu'ils sont à temps partiel. Donc je vais faire en sorte que le travail se passe dans tous les ateliers au mieux et dans la joie et la bonne humeur, autant que possible. J'organise les plannings, je fais en sorte de répartir les tâches quand il y en a besoin, d'envoyer les équipes en débarras chez les particuliers, de faire en sorte que les particuliers soient relativement satisfaits, en tout cas autant que possible, du fait qu'on vienne chez eux rapidement, efficacement et avec une équipe formée pour ça. Donc ça veut dire que je fais aussi de la formation auprès des salariés, puisque quand ils arrivent, en général, ils ne connaissent rien à la recyclerie, en tout cas rien de plus que les Diwa qui pratiquent la boutique, puisque la plupart aussi étaient clients en fait avant de venir. Donc nous connaissent bien, mais découvrent en fait toute la partie immergée de l'iceberg, à savoir le tri, qui est une part énorme du travail, le nettoyage, la remise en valeur des produits. C'est toute une activité aussi qui tourne autour des métiers et des compétences de la logistique, puisqu'il s'agit en permanence de gérer du bordel, en fait. Donc voilà, ça c'est mon métier, chef gestion du bordel. Et après, j'ai un peu une autre casquette qui est celle de responsable de la ressourcerie. Au quotidien, la jonction entre les deux, elle est vraiment très floue et elle s'opère un peu au fil de l'eau. Mais ça veut dire que j'ai aussi cette mission de faire en sorte que économiquement ça tourne, qu'on soit pas pas rentable, mais qu'on évite de perdre trop d'argent, de faire en sorte aussi qu'on travaille en bonne relation avec l'ensemble des partenaires du territoire, et notamment sur les enjeux futurs de création d'un nouveau pôle ressourcerie, etc. Mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Notamment, pour faire court, ça veut dire que je parle beaucoup avec la matériothèque que beaucoup d'auditeurs doivent déjà connaître. Voilà.
On va parler de cet iceberg, hein, la partie émergée étant la boutique elle-même. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'autre ?
C'est une très bonne question. Effectivement, en fait, la boutique, ça représente un tiers en fait, de la surface de Trésor. Les deux tiers qui restent, c'est des parties stockage et travail. Donc il y a une partie dépôt, la zone de dépôt que ceux qui viennent apporter des objets connaissent, un endroit dans lequel on réceptionne l'ensemble des marchandises, on les pèse. Tout ce qui rentre chez nous, même si ça part directement à la déchetterie, c'est pesé. Parce qu'après, nous, on explique combien on détourne grâce au fait de peser à l'arrivée et de peser à la sortie. Ensuite, c'est amené dans les ateliers pour être trié, vérifié, en gros passé au peigne fin, et puis pour reconstituer en fait ce qu'on appellerait un objet désirable. Parce que quand on reçoit un sac, c'est pour donner un exemple, hein, quand on reçoit un sac avec de la vaisselle, trois peluches et puis un slip un peu abîmé de la grand-mère, c'est absolument pas enthousiasmant. Donc nous, on va dispatcher ça dans les ateliers, on va vérifier le slip, on l'enlève, on va regarder si les nounours y sont en bon état. Celui qui est taché, on va l'enlever. Celui qui n'est pas taché, on va le mettre dans la boutique. Enfin, on va mettre une étiquette, puis on va le mettre dans la boutique. Enfin, voilà, on va vraiment faire un travail de discrimination pour redonner de la valeur aux objets qui en ont plus trop. Si le doudou sale, on peut le laver pour le rendre propre et ensuite le remettre à la boutique. Ça, on le fait. Mais sinon, voilà, les vêtements, on va vérifier qu'ils sont pas tachés, pas troués, que les fermetures éclair fonctionnent, que les poches fonctionnent. Les appareils électroménagers, on va vérifier leur fonctionnement. On n'est pas capable de les réparer parce qu'on n'a pas les compétences en interne. On manque aussi cruellement de pièces détachées pour pouvoir faire ça. Pièces détachées qui sont tout aussi onéreuse pour les particuliers que pour les professionnels du secteur. Donc, par exemple, les D3E, ce qu'on appelle les D3E, déchets électroniques et électriques et électroménagers. C'est tout ce qui est électro, du sèche-cheveux jusqu'au congélateur.
Petit et gros électro.
Voilà. On va vérifier que ça fonctionne. Et si ça, par exemple, si on détecte qu'il y a quelque chose qui fonctionne, mais quelque chose qui ne fonctionne pas, un lecteur CD fonctionne. Par contre, la partie cassette, elle est plus opérationnelle, on va l'indiquer et on va le vendre à un prix qui correspond au fait qu'il n'y a qu'une partie de l'objet qui fonctionne, histoire d'essayer de donner un maximum de chance à l'objet de survivre. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie deux tiers qu'on ne voit pas.
Et dans ces ateliers, donc, il y a certaines compétences qui sont sollicitées, comme la menuiserie, ou alors qu'est-ce qu'il y a comme activité ?
Est-ce que c'est si tu peux répondre
là-dessus ? On recrute pas.
Non, je comprends bien. En fonction de compétences. Oui.
Par contre, une fois que les salariés sont recrutés, ils ont une possibilité assez large de développer des nouvelles compétences. Axel, elle a parlé de la logistique. C'est hyper intéressant pour les salariés avec lesquels nous travaillons de développer des compétences en logistique parce que sur le territoire, l'industrie est quand même un des domaines, des secteurs qui recrutent le plus. En tout cas, sur la vallée de la Drôme, on ne peut pas négliger l'industrie agroalimentaire, l'industrie des plantes, etc. Donc, toutes les compétences qu'ils vont développer en réception, en gestion de stock, dans la saisie informatique, la pesée, etc., le travail avec le transpalette, et sont vraiment non négligeables. Et après, il y a toutes les compétences de valoriste, qui sont des compétences aujourd'hui encore peu utilisées dans le marché du travail classique, mais qui, a priori, à l'avenir, devraient l'être de plus en plus, qui sont aussi très utiles, jusqu'au service à la clientèle, la caisse, voilà, et le service clientèle de base, quoi.
Et en parallèle de ça, c'est vrai que donc, nous, on n'a même tout simplement pas le droit de recruter à la compétence. Hein. C'est, hormis le permis de conduire qui, pour les activités notamment de collecte, on se doute bien, est indispensable. Et donc, pas forcément toutes les personnes qui vont faire des débarras ont le permis de conduire, mais il faut que je m'assure qu'un certain nombre l'aient. Hormis ça, c'est pas une de nos possibilités. Par contre, évidemment qu'au quotidien, je m'appuie sur leurs compétences pour faire tourner la ressourcerie. Et du coup, ça explique aussi pourquoi les clients à Trésor, parfois, vont trouver des choses qui ont été refabriquées ou qui ont été testées. Par exemple, le matériel informatique. En ce moment-là, on a quelqu'un qui est arrivé et qui... à des compétences en informatique, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc là, on va pouvoir retrouver du matériel informatique qui est mieux trié, qui est plus performant et dont il peut, avec précision, dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas, ce qui n'était pas le cas avant. Donc effectivement, et là en menuiserie, tu parlais de menuiserie, on a effectivement un salarié qui est menuisier de formation, qui a travaillé au Soudan en menuiserie et du coup arrivé en France, qui a envie de se réinsérer dans ces métiers-là et du coup qui met en œuvre toutes ses compétences au sein de la boutique. Après, il y a aussi le fait qu'on a cette liberté dans une ressourcerie qui est énorme par rapport à d'autres chantiers d'insertion, c'est de pouvoir modeler l'activité au service des salariés. Ça va avec les compétences qu'ils avaient déjà avant, mais aussi celles qu'ils ont envie d'acquérir, notamment le fait, par exemple, pour certains salariés d'apprendre la couture, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît la couture dans l'équipe, et ponctuellement, en fait, de pouvoir aller se former comme ça sur certains métiers par appétit ou parce que leur projet professionnel le demande.
Axel, elle fait attention effectivement à accompagner, à encadrer les salariés en fonction de leur projet professionnel. Donc là, Adil, effectivement, qui est un des salariés actuels, réfugié soudanais, il était menuisier ébéniste dans son pays. En arrivant en France, il a poursuivi ce projet comme elle le disait. Il s'est rendu compte que ses compétences au Soudan était insuffisante pour exercer tel que le métier de menuisier en France. Et donc, il travaille un projet d'entrée en formation chez les Compagnons du Devoir à la rentrée de septembre 2019. Mais en attendant, Axel, elle lui laisse toute la latitude possible pour qu'il puisse conserver d'une part ses compétences, voire les développer. D'ailleurs, il vient de faire une immersion chez un ébéniste de Heure qui lui permet d'étoffer son réseau, d'utiliser des machines qu'il n'a peut-être jamais utilisées, etc. Axel, elle s'appuie vraiment sur le projet professionnel pour encadrer les salariés au quotidien.
Alors, autour de ces personnes en insertion, combien de personnes les conseillent ?
D'un point de vue extérieur et en étant juste moi du coup encadrante technique, évidemment je vais les conseiller, mais c'est pas tellement mon rôle. On essaye autant que possible de dissocier ces rôles-là, de sorte à ce que aussi ils puissent mettre de côté les problèmes en arrivant au travail. Mais par contre, quand il faut réouvrir la boîte et s'atteler un peu aux choses, c'est Cécile. Mais sinon, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de gens qui les conseillent, et parfois trop même, et qu'ils ont beaucoup de mal, en fait, pour la plupart, mais comme n'importe lequel d'entre nous. Hein, des fois, on toque à la mauvaise porte, on a un souci avec son EDF, et ben en fait, on ne sait pas à qui s'adresser, et puis en fait, il y a 10 personnes qui vont nous donner 10 informations différentes. Et cette espèce de brouhaha, et pour des personnes qui ont de multiples difficultés, cette cacophonie même entre interlocuteurs est parfois pas évidente à gérer. Pour quelqu'un déjà qui s'en sort bien et qui n'a pas de problème financier ou pas de problème spécifique à gérer et qui a un boulot, c'est difficile. Alors pour des gens qui ont plus de difficultés, c'est vraiment la galère.
Voilà. Mon métier, c'est de faire avec les salariés un diagnostic de leur situation, pour identifier où sont les priorités et établir un plan d'action à plus ou moins long terme. Une fois que ce travail est fait, si on a identifié qu'il y avait des problèmes de dette, pas de logement, un besoin d'accession à la mobilité, etc., on va travailler dans ce sens-là. Dans l'idéal, j'oriente vers les professionnels du territoire. S'il y a des problèmes de dette, de difficultés à payer des factures, etc., de logement, je vais les orienter vers une assistante sociale. S'il y a des problèmes de santé, je vais les orienter vers le personnel, les services à disposition sur le territoire. Mais c'est vrai qu'avant d'orienter, il faut que je m'improvise un petit peu assistante sociale, un petit peu infirmière, etc., le temps de pouvoir leur permettre d'avoir les rendez-vous nécessaires.
Alors, on parlerait de partenariats aussi. Vous avez cité Pôle emploi. Est-ce qu'il y a d'autres structures comme des collectivités locales également ?
En fait, on a deux types de partenariats et ça raconte très bien la dualité en fait de la vie de Trésor, qui est de mener une action de développement durable sur le territoire, en fait, ni plus ni moins, d'avoir vraiment une action au service des citoyens, une action sociale et écologique, mais c'est aussi un chantier d'insertion. Et du coup, on a des partenariats qui reflètent ces deux facettes. Donc, pour les partenariats sociaux, Cécile, je peux te laisser en parler.
Les postes des salariés et les nôtres sont soit financés, soit cofinancés par l'État et le département, selon que le salarié que l'on recrute soit demandeur d'emploi au chômage, à l'ARE, à l'ASS ou bénéficiaire du RSA, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est nos partenaires privilégiés. C'est eux qui financent nos postes et donc c'est eux à qui on doit rendre des comptes. Après ça, les salariés, ils nous sont orientés, comme je le disais tout à l'heure, par les conseillers de Pôle emploi, les conseillers des missions locales, que ce soit pour des bénéficiaires du RSA ou des jeunes, et Cap Emploi pour ce qui est des personnes avec des reconnaissances de travailleurs handicapés. Donc ça, ce sont nos partenaires qui nous orientent, mais du personnel et des salariés. Et ensuite, il y a les partenaires vers qui nous, on va orienter. Et donc là, on pourrait en citer une multitude, en fait. Hein, dès lors que ça peut répondre et aider un de nos salariés à lever certaines difficultés. Alors ça peut être l'espace social qui organise les petits-déj partenaires et tout un tas de réseaux très intéressants sur le territoire. L'hôpital avec le service de la permanence d'accès aux soins, l'accueil de jour, Val'Accueil qui fait un travail hyper intéressant sur le territoire au niveau de l'accompagnement vert et dans le logement, le centre médico-social, toujours avec le département de la Drôme, et j'en oublie évidemment.
Pour ce qui est des autres partenariats, en fait, Trésor a toujours fonctionné sur des relations informelles mais denses avec l'ensemble des acteurs du territoire. Le SCDD, c'est un excellent exemple de ça, mais probablement avec plein d'autres. Certains connaissent sans doute les potagers rares qui ont beaucoup travaillé en fait en lien et qui ont été dans les chantiers à Trésor, qui se sont désolidarisés. Enfin, il y a toujours eu ce maillage assez dense. Ces dernières années, ça s'était probablement un petit peu calmé, pas forcément pour le meilleur. Et là, du coup, Cécile et moi, on remet un peu d'énergie à recréer des partenariats plus intenses, plus riches, plus fructueux aussi pour tous. Et en l'occurrence, ce qui, moi, m'anime au quotidien en ce moment, en tout cas, représente une grosse partie de mon travail, c'est ce partenariat, comme tu le soulignais, avec la collectivité, qui est la communauté de communes du Diwa, qui, du coup, entreprend un grand chantier sur une politique zéro déchet, en fait, de réfection des déchetteries et du coup de mise en concert finalement de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les questions de réemploi. Voilà.
En parlant de déchetterie, on va aussi aborder la matériothèque. Vous êtes en trinôme, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. En fait, on est même plus qu'en trinôme parce que c'est plurinôme. Il y a plusieurs acteurs, en fait, certains qu'on connaît moins, comme la boîte à jouer ou Machin Machine, qui sont moins visibles parce que leur intervention va venir peut-être plus tard, en fait, mais qui sont intégrés quand même au projet de réflexion sur cette future ressourcerie. Et effectivement, c'est essentiellement tripartite aujourd'hui quand on essaye de réfléchir à tout ça, puisqu'il s'agit de partager un bâtiment avec la matériothèque à terme. Donc le terrain est acheté, la matériothèque a son local provisoire. Nous, on est installés encore dans les locaux qui nous ont prêté par la mairie d'Audi, mais dont on va partir, donc pour l'instant on est sur l'horizon 2020, pour intégrer ce nouveau bâti. Le Secours Populaire fait aussi partie de cette démarche, par exemple, mais ils n'auraient qu'un espace de stockage, donc leur intervention pour l'instant est moins centrée sur ce projet-là. Et nous, avec la matériothèque, en fait, on passe un temps finalement assez grand à essayer de se répartir les objets qu'on va collecter. Puis plus on avance et plus on va en finesse, en fait, dans cette répartition. Au début, c'était très clair, bricolage d'un côté et puis espace domestique de l'autre. Mais du coup, une tondeuse à gazon, dans quel vivier ça rentre, qui s'en occupe? Et puis, si elle arrive au mauvais endroit, comment on se l'amène, comment on se la répartit, qui la pèse, qui la rentre dans ses statistiques? Enfin, il y a une foule de questions comme ça qu'on résout au fur et à mesure qu'elles arrivent. On discute aussi de comment est-ce qu'on va occuper ce bâtiment, comment on va se répartir les espaces et aussi comment on va les les partager puisqu'il y a un ensemble de surfaces qui vont être partagées par les deux structures histoire de gagner en argent, en pertinence aussi de collaboration, en espace de travail. Enfin, quand des espaces, c'est le principe des habitats partagés, hein, quand des espaces comme la buanderie ne sont pas occupés à 100% du temps par les habitants, on peut les mutualiser. Bah, là, c'est exactement ce qu'on va faire avec des espaces comme la salle de ponçage qui nécessitent des infrastructures lourdes et qu'on peut tout à fait partager. Voilà, donc on est en train de se caler là-dessus.
Et puis il y a un partenaire important, c'est la population aussi, les Diwa, sans qui Trésor des Airs n'existerait pas en fait.
Ah ben évidemment, finalement la boutique elle tourne parce que les personnes font appel à Trésor pour aller soit faire des débarras dans des maisons de famille, ou les aider à faire des déménagements. Quand on part d'un logement plus grand pour un plus petit, on a systématiquement des choses à débarrasser. Soit les habitants du Diwa apportent de manière volontaire à Trésor leurs objets dans le but de donner une seconde vie. Donc effectivement, déjà pour ce volet-là, sans les habitants d'Iwa, Trésor ne tournerait pas. Mais c'est aussi les habitants du Diwa et un peu plus largement de la vallée qui peuvent être les salariés de Trésor. Et à ce titre-là, on en a évidemment besoin aussi.
Pour ça, vous avez aussi tendu les horaires d'ouverture.
On a d'abord diminué les horaires d'ouverture. En fait, on a commencé par faire ça, effectivement. On a diminué parce qu'on a décidé de fermer les mardis et jeudis matins. Ça, c'était il y a un an à peu près. Et ça nous a paru important parce qu'il n'y avait aucun moment où, avec l'équipe, on pouvait travailler dans le bâtiment sur cette fameuse partie immergée, tous, et sans avoir le souci d'accueillir de la clientèle. Mais par contre, on a réétendu les horaires pour ouvrir jusqu'à 17h30. C'est des horaires d'été, mais on pense que c'est aussi hyper important d'avoir une plage horaire un peu étendue, notamment en soirée. On conserve toujours les samedis matins aussi, bien que ce n'est pas forcément la plage sur laquelle on ait le plus de monde, mais parce que ça nous paraît être important d'avoir ce service-là et d'être ouvert aussi en dehors des horaires de travail. Quand on travaille, c'est difficile d'accepter d'être ouvert en dehors des horaires de travail, mais c'est important, notamment le samedi matin. Voilà. Et sur le fait que les Diwa sont les premiers partenaires, en fait, moi j'ai envie de tirer un petit chapeau aussi, quand même, aux habitants de Di, qui sont réputés pour être particulièrement militants, en tout cas dans les modes de consommation et dans la capacité à se mobiliser dans des alternatives. Et vraiment, sur le plan de la ressourcerie, pour parler un peu des choses qui fâchent, comme les chiffres, on s'en rend très très bien compte parce qu'on a un tout petit territoire et on a quand même des taux de détournement qui sont hyper importants. Donc le taux de détournement, c'est la quantité qu'on va détourner d'objets destinés au rebut. La quantité aussi qu'on collecte, soit parce que ça nous a apporté, soit parce qu'on est allé le chercher, elle est hyper importante comparée à la population. Et ça, vraiment, faut le souligner parce que c'est les efforts de chacun, les efforts des salariés pour revaloriser, mais aussi les efforts de chacun de venir d'abord à Trésor avant de penser à la poubelle. Voilà.
Comment ça se passe pour un particulier qui désire se débarrasser d'affaires, de meubles?
Bah, souvent, en fait, ils commencent par nous passer un coup de fil parce qu'on est très peu visible sur Internet et qu'effectivement, ils ne trouvent pas les informations. Et donc, ça tombe bien parce que comme il y a plein de possibilités, ça nous permet de tout expliquer. Soit il a la possibilité de venir nous apporter les choses dont il souhaite se débarrasser. Donc on lui rappelle nos horaires d'ouverture. Le mieux, c'est de venir déposer pendant ces horaires d'ouverture-là. En dehors de ça, ça veut dire que nous, on est encombrés et que le mardi matin, quand on arrive, on doit d'abord déblayer toute la zone de déchargement avant de pouvoir accueillir, par exemple, le relais qui est l'organisme de recyclage et qui vient collecter les textiles qu'on ne revalorise pas. Donc ça crée un embouteillage, etc. Donc pendant les horaires d'ouverture, on peut venir nous déposer. Ça, si on a un camion par exemple, c'est idéal, même pour les meubles, en fait, faut pas hésiter. Et après, sinon, si on n'est pas véhiculé, si ce qu'on a à débarrasser est trop volumineux, ou même qu'on a une maison en entier, on peut nous appeler. On cale ensemble un rendez-vous. Moi, je m'assure qu'il y ait suffisamment de personnes capables de porter et de se déplacer pour pouvoir intervenir. Des fois, ça peut prendre un peu de temps parce que là, ces derniers temps, on est plutôt cool parce que c'était l'hiver, que les gens commencent à peine à réaliser que c'est le moment de faire un ménage de printemps, mais quand tout le monde va avoir la même idée au même moment, c'est-à-dire après les ponts de mai et pendant tout l'été, on va être littéralement débordé. Donc des fois, il y a 2 semaines d'attente, mais en général, on essaye d'être réactif et là, on se déplace et on cale un rendez-vous voilà, entre 9h et 17h, grosso modo, dans la journée, et on vient récupérer à domicile.
Et on possède des camions, du matériel qui permet aux salariés de travailler en sécurité. Les salariés ont des équipements de protection individualisée, des chaussures de sécurité, des gants. On les forme pour qu'ils portent sans se blesser, etc.
Ce qui est jamais parfaitement fait, parce que tout le monde est faillible. Alors du coup, si tout le monde aussi sait que notre première intention, c'est de travailler proprement et en sécurité, ça fait qu'on évitera de nous demander de passer des meubles par la fenêtre et en montant sur une échelle, par exemple. Ça arrive parfois.
Ouais, c'est parfois acrobatique, d'autant que d'anciens bâtiments sont très étroits hein, dans les passages, c'est pas évident. Oui. D'ailleurs, quels sont les services que vous proposez par cette association R?
Pour ce qui concerne la recyclerie, en fait, on a un petit peu étendu, effectivement, on s'est rendu compte, parce que personne ne le fait sur le territoire, qu'il y avait un gros besoin de débarras, mais aussi de choses qui ne sont pas en bon état. Ce que Emmaüs, par exemple, ne fait pas, en fait, hein, de collecter des objets qui ne peuvent pas être vendus. Donc, on le fait, c'est une prestation qu'on fait payer parce que ça coûte très cher, en fait, de se déplacer à 3 salariés avec un camion qui consomme de l'essence et ben voilà, le temps de travail, etc. Donc on demande une indemnisation qui est bien en deçà des tarifs qui sont pratiqués par des entreprises qui font du débarras, évidemment, parce que le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire un service et de le rendre équitable, en fait.
Mais en même temps, ne pas en perdre.
Oui, exactement.
C'est l'importance.
Ouais, ne pas en perdre, c'est essentiel. Et en fait, pour toutes les activités d'insertion, c'est même un leitmotiv, j'ai envie de dire. Moi, c'est un peu mon boulot, effectivement. Je veux faire attention à ça. On a une directrice aussi, Marie-Aline, qui encadre l'ensemble des activités de R. Donc, on pourra y revenir ensuite, parce que c'était aussi un peu le sens de ta question, je crois. On doit faire attention à ça parce que on pourrait pas faire notre travail d'insertion sans ça. Les emplois en insertion, ils sont financés très fortement. Mais par contre, toute la pérennité de l'activité, elle l'est pas. Donc moi, une partie de mon poste est financée parce que je travaille auprès des publics en insertion, mais toute la partie qui concerne la gestion d'activité, ça l'est pas. L'essence, elle est pas financée. Le matériel qu'on achète pour faire tourner l'activité n'est pas financé par les services publics. Heureusement. Mais par contre, du coup, ça, il faut le pérenniser. Et tous les développements qu'on est en train de faire, outre le fait de vendre aux particuliers, la politique tarifaire, etc., mais aussi le développement potentiel d'autres façons de détourner les objets, c'est dans le but aussi de pérenniser économiquement une activité qui repose quand même essentiellement sur des deniers publics, en fait.
Mais qui a permis également de salarier plus de 20 personnes l'année dernière. Donc c'est vraiment très utile au territoire. Ce serait vraiment dommage de devoir se passer de trésors sur le territoire pour toutes ces raisons. L'économie sociale et solidaire, les postes en insertion. Il faut vraiment pérenniser ça.
Peut-être une petite spécificité à préciser avant de parler des autres chantiers d'association, c'est que en fait, quand on travaille en insertion, on travaille avec de l'argent public, mais on ne travaille pas avec des subventions. Ce qui est assez différent, en fait. On fonctionne de façon pérenne, en fait, sur des emplois qui sont subventionnés, mais parce que l'État part du principe que c'est nécessaire dans le parcours de ces personnes, que ça, c'est des barèmes de l'insertion, hein, mais je tiens à le préciser parce que c'est pour ça que c'est financé. On considère que des personnes qui sont en insertion ont tout un tas de problématiques à régler ou de compétences à acquérir qui font qu'elles ne sont pas productives, avec des gros guillemets parce que ce terme est vraiment très désagréable à employer, mais elles ne sont pas productives au sens où une entreprise classique les embaucherait pour effectuer un travail rentable. Voilà.
D'ailleurs, ce n'est pas du tout la politique de l'association d'être rentable.
Non, absolument pas. On ne l'est pas d'ailleurs, faut le dire. En fait, l'association R et donc plus largement le groupe Archer, en fait, essaie d'équilibrer entre les activités qui sont rentables et celles qui ne le sont pas. Les entreprises classiques ou les entreprises d'insertion qui, elles, ont le droit de faire du bénéfice puisqu'elles sont dans le secteur concurrentiel, elles font un peu plus d'argent sur le secteur marchand lorsque ce qu'on appelle des chantiers d'insertion ACI pour les intimes font un travail qui est plus de fond avec des publics qu'on dit plus éloignés de l'emploi et du coup ne sont pas rentables en fait parce que c'est une interdiction. Tout simplement, on n'a pas le droit de faire plus d'un certain pourcentage de notre volume d'activité en chiffre d'affaires. On n'a pas le droit de le faire pour protéger les publics, mais aussi pour pas entrer dans le secteur concurrentiel. Mais c'est aussi pour moi, en fait, le gage de notre mission sur le territoire. C'est que notre but, c'est d'œuvrer au réemploi sur le territoire, d'améliorer le détournement de la benne, de mener une action écologique et de permettre à tous de se meubler, de se vêtir à moindre prix. Cette action, elle est rendue possible par cette dualité en fait entre l'insertion et le service rendu. Voilà.
C'est plus un investissement à long terme, en somme.
C'est la conviction qui m'anime quand je travaille, en tout cas.
Mais tu parlais de rentabilité. Tu nous as aussi demandé quelles étaient nos autres activités sur le territoire. En l'occurrence, sur la vallée de la Drôme, on a aussi une activité qui s'appelle Association Intermédiaire, qui est un service de mise à disposition de personnel dans le secteur non marchand, c'est-à-dire auprès de particuliers, associations et collectivités. Ça fonctionne grosso modo comme de l'intérim. Un client nous appelle, que ce soit une association, une mairie ou un particulier, pour dire j'aurais besoin de quelqu'un pour repeindre mes volets, pour monter des meubles à la cité scolaire de Die, pour venir faire le service au vœu du maire. On peut répondre à ça. On devient, nous, R, le salarié de la personne qu'on va mettre à disposition auprès du client. Et on a aussi une entreprise de travail temporaire d'insertion, donc c'est de l'intérim, mais d'insertion. Donc là, on a une équipe de commerciaux qui démarche les entreprises en leur expliquant quel travail on fait chez R et en essayant de leur vendre le fait qu'on a du personnel qualifié, compétent, avec des très bonnes aptitudes et compétences sociales que l'on peut leur mettre à disposition au sein de leurs entreprises.
On peut positionner aussi l'activité de l'association R et du magasin Trésor. Sur quelle étendue vous proposez ces services ?
L'étendue, elle est relativement variable et notamment ces dernières années, elle a un peu changé avec l'arrivée de l'or d'ébène à Cray qui pose en fait pour moi une espèce de marqueur territorial. En fait, on va pas aller sur le Crétois maintenant puisqu'il y a une association là-bas qui fait un super travail et qui nous épargne de le faire parce qu'on a déjà bien assez à faire avec le territoire d'Iwa. Et du coup, d'Iwa s'entend au sens large puisqu'on a aussi un peu le Saillançon. En fonction des choix qu'ils vont faire. Est-ce que pour des gens qui travaillent à Die, ils auront peut-être plus l'habitude et le réflexe de s'adresser à une structure du DIWA, c'est plus pratique. Et à l'inverse, des gens qui vont vers Cray vont plutôt aller à l'or d'ébène. Mais disons qu'on va de Cray à Luste à Croix-Haute, on va aussi un peu sur le Vercors, Roussin-en-Vercors, etc., qui ne fait pas partie de la communauté de communes, mais qui est aussi concernée puisque après, ça va être à Vassieux, la prochaine ressourcerie. Donc, de temps en temps, voilà, ils viennent chez nous. On a évidemment Saint-Nazaire-le-Désert, Beaumont-en-Diwa, enfin voilà, les endroits les plus reculés. Prochainement, on devrait faire un débarras à Beaurières, voilà, pour donner une idée. Donc tout ça, en fait, c'est... pour moi, c'est un atout parce que c'est ce qui renforce en fait un territoire. C'est ce qui fait que, enfin, on offre la même qualité de service et au même tarif qu'on soit une livraison, elle coûte le même prix qu'on la fasse à Beaurières ou qu'on la fasse à Die. Ça me paraît important parce qu'on est solidaire sur ce territoire. Mais c'est aussi une explication très importante de la nature et de la façon dont on va gérer notre activité par rapport à une ressourcerie qui existerait à Paris, par exemple, où les distances sont très faibles et où le temps d'intervention est évidemment réduit ou on peut optimiser. Moi, quand je dois faire un débarras chez quelqu'un, je prévois toujours la demi-journée parce qu'entre le temps de trajet, le fait de s'équiper, d'intervenir sur place, de prendre le temps avec quelqu'un aussi qui habite à l'autre bout du Diwa, de nous recevoir.
Voilà, de gérer les imprévus.
De gérer les imprévus, en fait, ici, parce qu'on est sur un territoire où, entre Saillant et Beaumont, je ne sais même pas combien de kilomètres il y a, mais plusieurs dizaines, peut-être 50, je pense. Du coup, ça paramètre un peu la façon dont on travaille. C'est évidemment pas rentable, encore une fois, mais c'est évidemment là qu'est tout le sens d'un tel service ici.
Et pour répondre à la question du territoire, pour les salariés, par contre, tous les demandeurs d'emploi de la vallée de la Drôme, identifiés au préalable par les prescripteurs, comme on le disait tout à l'heure, peuvent candidater à une place en chantier d'insertion, en fait. Ils pourraient postuler en venant de Livron. Alors, évidemment, ou de Cré, ou évidemment, nous, on va juger de leur capacité à se déplacer au quotidien et à respecter le cadre du travail, qui est quand même très important. Mais tout le public, tous les demandeurs d'emploi de la vallée peuvent postuler au chantier d'insertion, que ce soit celui de Cré ou celui de Die.
Oui, aujourd'hui, on a effectivement une salariée qui est à Aurel, une autre à Saillant, et puis pour le plus loin de l'autre côté, à Poyol, Luc-en-Diwa, Châtillon-Diwa, voilà.
Qu'est-ce qui est proposé dans le magasin Trésor au public? C'est très divers, hein, ça va du vêtement au livre, en passant par l'électroménager, ou même les jouets. Vous avez des priorités, justement, ou peut-être une mutation de ce que vous allez proposer?
Oui, alors de fait, avec la matériothèque et le travail qu'on mène conjointement, il y a eu beaucoup d'évolutions et on va en avoir davantage. Par exemple, on ne fait plus les vélos, parce que du coup, ils travaillent directement avec l'association Vélo DIY. On s'est dit, nous, c'est compliqué de le mettre en œuvre, on ne fait pas un super travail. Eux, c'est un travail associatif qui fonctionne. Autant qu'ils aient tout, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Donc, par exemple, ça, on ne le fait plus. Et on s'est dispatché les choses un peu sur le registre de nous, on dirait qu'on serait Ikea et vous seriez Castorama. Voilà. C'est un peu l'idée. Sauf que on est Ikea, mais on fait aussi les vêtements. Donc, on est encore un peu au champ, mais voilà, on essaye de bien segmenter de plus en plus. En termes de priorité, non. La priorité, elle est mise en fait plutôt parce qu'on constate. Plus on va récupérer d'une certaine quantité d'un produit, d'un objet type, par exemple les livres, et plus on va essayer de mener un chantier qui concernerait ce produit-là, d'adapter les tarifs en magasin, mais aussi d'adapter ce qu'on va pouvoir en faire, la discrimination qu'on va avoir à la collecte ou à la vente, voilà. Tout ça, ça va influer. Donc, pour ce qui est des rayons, dans les grandes lignes, on a tout ce qui est électroménager, électronique, donc en allant de l'informatique jusqu'à la machine à laver, en passant par ce qu'on appelle le petit électroménager, les appareils culinaires, tout ça. On a tout ce qui est vaisselle, aménagement d'intérieur, petits objets, salle de bain, etc., le luminaire, la déco, pour ce qui est des petits objets. Après, on a l'immense espace mobilier, hein, à savoir que dans la partie stockage, le mobilier nous prend énormément de place. Pas parce qu'on fait de la rétention, mais parce que, en fait, entre le temps où on le réceptionne et le temps où on a vérifié que les portes, en fait, si elles marchent pas, si c'est qu'il faut raboter un petit peu, ou qu'on a repassé un petit coup de polish, ou qu'on a vérifié qu'en fait, c'était pas mangé par les vers. Enfin bon, tout ça, c'est stocké en attente, donc ça prend beaucoup de place. On a un rayon puériculture. On a des vêtements hommes, femmes, enfants,
du jouet,
du jeu, du matériel de sport,
du linge de maison,
tout un tas de choses saisonnières aussi, comme par exemple les décorations de Noël, le matériel de jardinage. On a des matelas et sommiers. On a et du coup des livres en pagaille, un très beau rayon librairie. J'insiste dessus parce que on a un taux de détournement. Hein, je reviens sur ce fameux taux de détournement. Donc le pourcentage de livres qu'on arrive à revaloriser par rapport au pourcentage qui nous arrive, qui est un excellent pourcentage par rapport à d'autres ressourceries, parce qu'on a le travail d'une libraire qui est investie comme jamais j'ai vu quelqu'un s'investir avec passion dans un domaine de métier. Elle était libraire avant et du coup, elle transmet ses compétences au reste de l'équipe pour qu'on ait un rayon livre digne de ce nom, digne d'une médiathèque qui n'est plus ouverte en ce moment sur le territoire. Et on en jette, hélas, 50% encore. Voilà.
La visibilité de Trésor en tant que magasin, est-ce que vous auriez l'idée d'en mettre une vitrine en centre-ville?
Une excellente idée, effectivement.
On réfléchit beaucoup, on a de longues conversations avec Axel sur ce qu'on pouvait faire pour rendre plus visible notre activité, détourner encore plus de choses. Axel, elle disait, on jette 50% des livres, vous vous rendez compte, 50% de livres sur la masse totale qu'on peut collecter, c'est énorme et c'est un peu désespérant parce que d'une part, ce sont des objets culturels, mais en dehors de ça, parce que c'est du papier, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce papier? Donc on est sans cesse en train de fouiller le net, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Donc on est vraiment dans une période d'activité où on cherche des pistes pour pouvoir détourner beaucoup plus et être plus visible. Et du coup, l'idée de la vitrine, elle n'est pas du tout idiote. On y a déjà pensé. Axel, elle me disait l'autre jour, et pourquoi on n'aurait pas un rayon dans un supermarché de Die qui serait dédié à des objets de seconde main?
Collectivité locale, en soit dit en passant, il y a des initiatives. On peut parler de Village Vivant qui voudrait s'approprier des fonds de commerce dans le centre. Et est-ce qu'il y a des possibilités de partenariat avec vous, justement, dans cette idée?
Alors, sans m'avancer sur un rendez-vous qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va avoir lieu la semaine prochaine, c'est ça, oui. Je les rencontre, Village Vivant, la semaine prochaine, hein, dans cette hypothèse-là. Nous, en fait, comme dit Cécile, on réfléchit à des objets qu'on pourrait détourner autrement et auxquels on pourrait donner une seconde vie. Mais au-delà de ça, effectivement, en fait, pour moi, ça va de concert vraiment avec une mise en lien avec ce que font des acteurs sur le territoire. Village Vivant en fait partie. Moi, l'idée d'une boutique en centre-ville, elle me paraît hyper intéressante. À terme, on va, enfin, info importante, hein, c'est que à terme, on va déménager dans la zone artisanale quand le bâtiment qu'on conçoit avec la communauté de communes, que la communauté de communes construit existera, il sera dans la zone artisanale et ça restera du coup un enjeu d'être à proximité de la population qui n'est pas mobile véhiculée, mais aussi à ne pas négliger en fait de touristes en fait qui viennent l'été, qui se baladent dans le centre ville, qui viennent pour les week-ends aussi, des gens même qui habitent pas très loin mais qui viennent flâner et qui viennent nécessairement en centre-ville. Ouais.
Zone d'activité proche de la zone commerciale, hein, aussi.
Oui, tout à fait.
Moi, je peux rebondir là, oui, sur ces questions de développement. On est en train de recruter, on est en plein recrutement d'un menuisier ébéniste créatif entrepreneur. C'est vraiment le nom et le profil de la personne qu'on recherche dans l'idée de mener une espèce de recherche-action sur le bois aujourd'hui que l'on jette et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment avec ces grandes armoires qui sont un peu bancales, vermoulues, etc., mais qui ont quand même des grands panneaux de bois en parfait état, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc là, on a vraiment eu une longue réflexion là-dessus. Et aujourd'hui, la direction a fait le choix de recruter quelqu'un pour se donner 12 mois pour mener cette recherche, faire des tests, essayer de concevoir des modules, du mobilier, etc. Donc une vitrine à 10, ça pourrait servir à ça un jour, mais ça pourrait aussi servir éventuellement à vendre les belles choses, les très belles choses que l'on a dans la boutique, des objets qui sont inusables, nous sont parfois donnés lors des débarras. C'est la marmite, le creuset de la grand-mère, mais c'est aussi l'éplucheur qui épluchera toujours, en fait, etc. Et ce genre de choses, on pourrait réfléchir à leur trouver une très belle vitrine.
L'association R est représentée, ou qui s'occupe de cette association? Il existe un conseil d'administration. Quelles sont ces personnes? Elles sont de la population ou alors elles sont très impliquées aussi dans l'activité?
Alors, une des difficultés probablement pour l'association sur le territoire et notamment pour les DIWA à comprendre vraiment qui est R tient sûrement de cette question-là à laquelle il est difficile de répondre parce que c'est pas sur le territoire que ça se passe. Pour tout un tas de raisons et notamment historiques et pour les raisons aussi que j'évoquais sur l'insertion qui sont que en fait ce sont des métiers qui sont très peu rentables et pour lesquels on a en fait, au fur et à mesure des années, mutualisé. En l'occurrence, actuellement, donc c'est Monsieur Moncoudiol qui est responsable, enfin qui est président de l'association, mais le conseil d'administration est basé à Romans-sur-Isère,
oui.
Valence, Romans, voilà, et un peu
en
sur
fait,
les deux.
En
voilà.
Fait, fait partie depuis 5 ans du groupe Archer. R a une trentaine d'années et Archer a une trentaine d'années. Mais pour des raisons de pérennité économique, les deux se sont associés. Donc c'est une holding hein, maintenant, le groupe Archer. C'est un gros groupe d'économie sociale et solidaire qui est dirigé par un conseil d'administration au même titre que R. Et le président du conseil d'administration de R, comme le président du conseil d'administration de Archer, est Gilles Moncoudiol, et le directeur de R, comme le directeur du groupe Archer, et M. Christophe Chevalier, qui travaille avec toute une équipe de direction qui sont ces relais de direction. Et pour nous, le relais de direction au sein de l'association R, c'est Marie-Aline Loy, qui, elle, est basée 114 rue de la Forêt à Valence. Le 114, on l'appelle comme ça maintenant, c'est un pôle où on retrouve le personnel qui s'occupe de l'intérim, de l'association intermédiaire, le chantier d'insertion restaurant et ceux d'espace vert de Valence. Et c'est aussi un espace de coworking où on peut louer des bureaux, des salles, venir faire des journées de formation avec un repas préparé par le restaurant, etc.
Ouais, j'ai très mal commencé ma réponse parce que du coup, c'était pas clair du tout. Comme dans beaucoup de grosses associations, en fait, le conseil d'administration, il a un rôle de garant citoyen. En fait, il a pas un rôle moteur ni de représentation sur le territoire. Par contre, ni d'initiateur. En l'occurrence, on a effectivement Christophe Chevalier qui est un directeur hors norme et qui est vraiment un initiateur de dingue et qui, il faut le dire aussi, a le cran de nous suivre comme Marie-Aline quand on propose des idées de revalorisation. Complètement, il faut le dire, hein, complètement innovante et très très rarement mise en œuvre par des structures d'insertion. Donc il faut avoir la vision, il faut avoir l'envie de se lancer dans ce genre de chantier. Et moi je dis vraiment avec fierté qu'on appartient à ce groupe parce que d'une part c'est malin et ça sert à rien de payer très cher une fonction qui n'est remplie qu'à moitié par un comptable qui du coup n'a qu'un temps partiel parce qu'on n'a pas vraiment ni suffisamment de travail à lui donner ni assez de ressources pour le payer. Tout ça c'est mutualisé. Moi, ça me donne un peu de coffre aussi parce que ça permet d'avoir un retentissement sur Romans, Valence, d'avoir un peu de retour de ce qui se passe là-bas, d'avoir une plus grosse structure pour appuyer certaines démarches. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis parce que je crois que c'est un groupe qui, malgré les évolutions actuelles du secteur et les intentions aussi politique en vogue en ce moment, a clairement mis l'humain au centre. Voilà.
Ce groupe nous permet, à titre personnel, Axel et moi, enfin personnel mais professionnel, d'avoir de l'analyse de la pratique. Si on n'était que toutes les deux sur le territoire, on ferait de l'analyse de la pratique à deux. Je pense qu'on le fait assez régulièrement. Mais par contre, on peut aller rencontrer nos collègues, nos confrères, nos consoeurs à Valence et avoir un vrai groupe qui nous permet de bénéficier de ça, de bénéficier de formation, etc. C'est aussi ça, le groupe Archer.
Ces trésors déserts qui vous ont fait venir ici ou alors vous étiez déjà résidente?
Moi, je suis arrivée sur le territoire plutôt pour l'emploi, mais celui de mon conjoint. Et encore, je ne vis pas dans le Diwa, mais plutôt dans les alentours de Cré. Et j'ai trouvé cet emploi après avoir eu mon second enfant. Et c'était vraiment une super aubaine. J'étais rentrée de l'étranger en me disant que j'avais très envie de travailler dans l'insertion par l'activité économique et j'ai trouvé ce poste à Cré. C'était vraiment une énorme aubaine et je suis très, très contente d'être là.
Moi, pas du tout. Et là, du coup, c'est pareil, c'est une immense chance. Enfin, je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette possibilité. En fait, je suis parisienne d'origine et je suis arrivée sur le territoire il y a 3 ans maintenant, un peu plus, avec moi, ma petite entreprise qui n'a pas connu la crise mais n'a pas non plus connu que des joies, et j'en avais foncièrement marre de travailler toute seule. En fait, je faisais déjà du réemploi et mon métier c'est designer à l'origine, et du coup je faisais du réemploi à partir de vêtements que je refabriquais. Certains m'ont peut-être déjà croisé sur le marché, puisqu'il y a 2 ans j'avais vendu notamment sur le marché mes vêtements ou à Brin de Terroir, voilà. Donc ça marchait bien, mais en fait ça ne me permettait pas de développer les choses telles que je le souhaitais, c'est-à-dire avoir de l'impact, travailler vraiment au réemploi sur le territoire, etc. Alors du coup, m'essoufflant un peu toute seule, je suis allée travailler à Lyon dans une ressourcerie de quartier. C'est pour ça que j'ai un peu de recul et je suis capable de dire que vraiment ce qu'on fait sur le territoire, c'est assez dingue. Et en fait, l'initiative qu'ont les habitants, elle est vraiment hyper, hyper forte comparée à d'autres endroits. Donc voilà, je suis allée travailler à Lyon entre-temps. Et là, s'est présentée cette offre en remplacement de ma prédécesseur et j'en suis ravie.
Cécile et Axel, je vous remercie d'être venus nous parler donc de l'association R et de son magasin Trésor, qui est pour l'instant encore situé derrière le jardin du Perrier. Et prochainement, une ouverture, vous pouvez à peu près envisager quelle période ?
Allez, on va être optimiste, fin 2020. Voilà.
Eh bien, je vous remercie.
On sera ravis de revenir vous parler de ça, du projet avec la personne que l'on recrute actuellement, etc. On reviendra avec plaisir. Merci à vous.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Interview.
Okay. The bird.